Quand je pensais à ce que ce livre pourrait m'amener, je me suis dit, tiens, sûrement des belles discussions avec mon éditeur. Parce que c'est lui qui a choisi le texte, donc forcément, on devrait avoir des discussions sur tel ou tel choix, l'intention derrière une phrase, des choses comme ça. Je me suis dit, peut-être, s'il se rend jusque-là, des beaux échanges avec les lecteurs ou les lectrices. J'ai plus honte de le dire, mais jamais j'ai pensé au libraire. Jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que parmi les gens qui m'ont mis à plus d'une reprise les larmes aux yeux, il y a souvent eu des libraires. Et voilà, je pense que quand j'écrirai le deuxième roman, je penserai un peu plus à eux.
Bienvenue à la librairie Cochot qui met en valeur le travail des libraires. Voici votre animateur, René Cochot.
Ici René Cochot, bienvenue à votre émission littéraire La librairie Cochot où on se donne comme devise « On livre le meilleur de nous-mêmes ». Voici ce que nous avons pour vous cette semaine. Une entrevue avec François-Alexandre Bourbeau de la librairie Libère à New Richmond. Anne-Marie Villeneuve, éditrice chez Druide, parle de sa perception des libraires et des librairies indépendantes. Léonie Boudreau, copropriétaire de la librairie Les Deux Sœurs, nous parle des livres placés en vitrine ou en évidence. Anthony Lacroix, de la librairie boutique Vénus à Rimouski, nous dit quels ont été les livres les plus vendus au cours des derniers mois. Une entrevue avec Catherine Lafrance concernant son roman qui a beaucoup été vendu au cours des derniers mois en librairie, L'été de tous les feux, paru aux éditions Druide. Et comment devenir libraire? Eh bien, ça s'enseigne, entre autres, dans une université du canton de Vaud, en Suisse. On a pour vous un extrait d'une vidéo faite par cette université. Bienvenue à la librairie Cochot.
De la rue, sentez le papier ancien et les histoires inconnues qui voyageaient sans fin. Les livres dormaient en silence sous les lampes du plafond, comme des trésors d'enfance cachés dans les saisons. Chaque page racontait un monde oublié que le cœur retrouvait sans jamais le chercher. La librairie du coin de la rue vit encore dans ma vue comme une lumière tranquille au milieu de la ville. La librairie du coin de la s'est jamais perdue, elle demeure dans ma mémoire, éclaire encore le soir. Et les années passées qui reviennent soudain. La librairie du coin de la rue brille encore dans les rues comme un refuge du secret que le temps respectait. La librairie du coin de la rue continue d'être venue jusqu'au fond de mon cœur avec sa douce chaleur.
Il est libraire à New Richmond, à la librairie Libère. Il a pour nom François-Alexandre Bourbeau. Il est chroniqueur à l'émission, mais là, je le reçois comme libraire officiel et non comme chroniqueur. Bonjour, François-Alexandre.
Bonjour, René.
François-Alexandre, je fais le tour un peu des libraires au Québec et même ailleurs, à l'extérieur de la province. Et c'est ton tour cette semaine. Alors, tu vas nous parler, évidemment, de ta carrière, de ton métier de libraire. Mais la question, évidemment, qui brûle les lèvres de tout le monde, qu'est-ce qui a amené François-Alexandre à devenir libraire?
Et c'est la grande question. C'est une excellente question. J'ai toujours évolué parmi les livres. J'ai grandi avec les livres. Mon éducation s'est toujours enroulée autour de la culture, mais plus particulièrement des livres et des langues. Pour ce qui est de devenir libraire, en fait, c'est la responsable de la bibliothèque du campus collégial où je travaillais pendant mes études au cégep, qui m'a dit qu'il y avait un poste qui s'était libéré, un poste étudiant qui était affiché à la librairie de mon quartier, à New Richmond, la librairie Libère, librairie que je fréquentais depuis déjà quelques temps. Donc, quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai pas hésité une minute. Ça, c'était en 2013, octobre 2013, puis j'y suis toujours 13 ans plus tard.
Bon, et qu'est-ce qui fait que 13 ans plus tard, tu demeures libraire? C'est la passion du métier, j'imagine.
La passion du métier, l'univers dans lequel tout ça se déroule, les gens qu'on côtoie, les collègues, c'est un monde à part, c'est un monde en soi, c'est un lieu enchanteur et enchantant, c'est un lieu tout plein de belles trouvailles. C'est un lieu où le temps s'arrête, en fait, une librairie, je trouve. Puis la librairie Libère correspondait à mes attentes, correspondait à ma vision. On est plein de gens qui s'entendons bien également, qui avons les mêmes objectifs. Donc, tout s'assemblait pour que ça soit le lieu de destination tout désigné.
Bon, évidemment, lorsqu'on est libraire, l'objectif qu'on a principalement, évidemment, c'est de conseiller les gens qui se présentent à la librairie, mais c'est d'assurer également aussi une rentabilité. Et quel est votre rayon qui fait en sorte que la librairie Libère à New Richmond reste ouverte, là?
En fait, on est là depuis 40 ans. On célèbre d'ailleurs en novembre cette année, là, aux 40 ans d'existence.
Oh, wow! Okay.
Oui, quand même, ça fait un bon bout de temps que ça roule. Le flambeau a été passé à plein de porte-étendards fiers et dignes. Faut dire qu'on couvre un grand territoire en partant, quelques centaines, mais en fait, plusieurs dans ce cas-ci, donc quelques centaines de kilomètres. Je pense qu'on a su attirer les gens à la librairie, oui, en fonction des livres, en fonction de qui on est, de ce que ça représente être à la librairie. C'est un pôle culturel au-delà d'un commerce de livres, en fait. C'est un lieu de rassemblement où les gens peuvent échanger sur des mêmes sujets, des mêmes intérêts, et on connaît notre clientèle. Oui, il y a des gens qu'on côtoie quelquefois, on les voit moins souvent, mais on les voit tout le temps. Donc, ces gens-là font partie de la famille de la librairie. On les connaît personnellement, on peut échanger, on peut jaser, on peut avoir du fun. Alors, c'est un havre, je pense, notre librairie. Et on aime bien aussi promouvoir la culture, les différents événements culturels qui ont lieu dans la région. On en parlait tout à l'heure en ronde, mais il y a plusieurs festivals qui ont lieu, tant qui tournent autour du livre que du théâtre, que de la poésie. Alors, on aime bien quand une participation est possible de ce côté-là aussi. C'est autant de vitrines, donc, qui permettent aux livres de sortir de la librairie et d'avoir une vie au-delà de celle qu'il y aurait sur les tablettes.
Bon, maintenant, François-Alexandre, la librairie Libère se situe à New Richmond, en Gaspésie. Avez-vous calculé la part de la clientèle touristique qui fait un arrêt à la librairie Libère? Et si c'est le cas, quel type d'ouvrage les touristes recherchent?
C'est sûr que l'été, on le sent davantage. La saison touristique dans la baie des Chaleurs, elle se fait sentir l'été. Mais notre clientèle, elle existe à longueur d'année. Alors, effectivement, on peut dire qu'à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, c'est là où la période touristique a le vent dans les voiles. Et ce qui est très bon pour la région aussi, parce qu'il y a plein de belles choses à découvrir à ce moment-là dans la région, à tout moment de l'année, mais l'été, il y a quelque chose de particulier. Là, c'est plus chaleureux, c'est plus vivant, c'est plus vibrant. Ce que les gens recherchent, en fait, ben oui, la littérature gaspésienne, forcément. Un des mandats que nous, on a à la librairie, c'est de mettre de l'avant le plus possible la littérature québécoise. En fait, les ouvrages québécois, puis il n'y a pas juste la littérature, le livre québécois au sens large du terme, mais aussi les livres d'ici, en fait, parce que la Gaspésie regorge de romancières et de romanciers, de poètes, d'illustratrices, de bédéistes, et j'en passe. Alors oui, les gens recherchent des livres sur la Gaspésie, et on a aussi depuis quelques années un principe assez chouette. On se remplit une valise, une belle valise rétro bleu pastel de sable avec des coquillages. Et à l'intérieur, pour la période des vacances, on emballe des sacs. Donc, c'est des sacs mystères. On appelle ça partir en vacances avec un inconnu. Le principe étant que c'est un livre de poche, pas trop dispendieux et qui risque de plaire à pas mal tout le monde. Mm-hmm. Nous, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais les gens qui achètent le livre, non. Et ce principe-là est assez chouette. Il y a un petit quelque chose de prendre le risque qui se prête bien, on trouve, aux vacances. Et les gens aiment bien ce principe-là. Ils nous en parlent souvent, en fait. On a entendu dire qu'il y avait ça à la librairie des sacs mystères. On venait essayer, ça nous tentait. Alors ça, on l'entend souvent, effectivement.
Ben, belle initiative. Bon, François-Alexandre, tu es également auteur et traducteur. Est-ce que la tentation est forte pour le libraire que tu es de mettre ton livre en vitrine où tu te gardes une petite gêne?
C'est drôle ça, parce que je ça fait déjà 3 ans que Constance est sorti. Ma foi, c'est un peu fou, ça passe vite. Et ça me fait encore et toujours la même impression. C'est un peu étrange de parler de mon livre. Ouais. Je préfère quand d'autres personnes le font pour moi, mais j'apprends à être à l'aise avec le fait d'en parler davantage moi-même et de saisir davantage l'occasion de le faire. Puis là, c'est pas mercantile comme volonté. Mm-hmm. Le livre existe, puis je trouve qu'il a raison d'exister aussi. Mais c'est sûr que ça me fait toujours quelque chose de spécial d'en parler, parce que c'est très de moi. Mais c'est un livre qui fait du bien, c'est un livre qui fait rêver, c'est un livre qui nous met des étoiles plein la tête, qui porte l'odeur des vagues et le son du ressac. Alors, je pense qu'il représente bien, en fait, la Gaspésie. Et que pour les gens qui cherchent une lecture de vacances ou une lecture tout simplement qui leur permette de s'évader, ben c'est une option tout à fait valable. Mais j'apprends à être davantage à l'aise avec ça.
D'accord. Et dernière question, François-Alexandre. Le nom de la librairie Libère, pourquoi ce nom? Comment justifie-t-on le choix du nom?
Ce nom-là, en fait, a été choisi à l'origine par 7 personnes. Donc, c'était les personnes qui ont mis sur pied la librairie Libère. Et il y avait cette volonté-là de renvoyer au fait que la lecture nous permet de nous évader. Donc, ça vient du latin, en fait. Ça signifie à la fois la liberté et le livre. Donc, l'objet et l'essence. Mm-hmm. Et ça fit juste très bien, je pense. Il n'y a aucun lien d'ailleurs avec les éditions Libère, c'est complètement autre chose. Coïncidemment, c'est le même nom. Mais je crois qu'à l'origine, c'était la volonté donc la coopérative de renvoyer cette image-là de liberté parmi les livres. Ceci dit, je ne veux pas non plus prêter des paroles aux fondateurs, si ce n'était pas ça leur intention, mais il me semble avoir déjà venu ça lors des discussions là, avec quelques membres qui côtoient toujours la librairie.
Ben voilà, alors François-Alexandre Bourbeau, libraire à la librairie Libère à New Richmond. Merci beaucoup pour cette entrevue et longue vie à la librairie.
Bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Et surtout, bon 40e.
Oui, bien, merci, c'est gentil de le dire. On en est très heureux, on est choyés d'être là et pouvoir partager ce long parcours avec vous, avec notre clientèle, bien entendu. Puis on se souhaite que notre route se croise pendant encore de longues, longues années.
Écrire. Avec ou sans rature, écrire pour toi, ô littérature. soulager ce sentiment qui me déchire. Sous la lune allumée, je voudrais tout dire. Pour venger un souvenir ou dénoncer tout ce qu'on abandonne. Écrire. Écrire. Avec ou sans rature, écrire pour toi, ô littérature. Écrire. Ce que la nuit inspire pour le meilleur et pour le pire. Écrire encore, écrire. Écrire pour toi, ô littérature. Écrire.
Découvrons le réseau des libraires indépendants des Hauts-de-France. Ce réseau de libraires fait même la promotion des livres publiés au Québec intitulé « La section spéciale Québec de nos libraires ». Le réseau regroupe une cinquantaine de librairies indépendantes des Hauts-de-France. Écoutons une vidéo produite par le réseau.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les réseaux sociaux de l'association Les Libraires d'en Haut. C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de En Vadrouille. Aujourd'hui, je suis du côté de Angres. Je vais aller à la rencontre de Ludivine et Cindy, deux libraires qui ont décidé d'ouvrir au Bonheur des Livres en juillet dernier. Alors, implantés à deux pas du centre-ville, je vais aller leur demander leur coin préféré, leur coup de cœur et même leurs objectifs pour les années futures. Vous commencez à connaître le concept, soyez les bienvenus dans En Vadrouille.
Alors mon coin préféré de la librairie, là pour le moment, c'est la vitrine. Pour l'ouverture, en fait, j'avais quelque chose en tête et ça a été fait magnifiquement bien par Ludivine. J'adore comment elle a transformé notre thématique pour l'ouverture, qu'on voulait en fait présenter des livres sur la librairie, sur la lecture, sur les livres, pour tout âge, pour attirer en fait la curiosité de la clientèle. Et voilà, le rendu est spectaculaire.
Dans la librairie, mon coin préféré, ben c'est ce petit coin. C'est là où je rédige mes coups de cœur sur les super trames que m'a fait ma pépite. Et croyez-moi, j'ai du travail parce que j'ai tout ça recopié pour vous les faire tous découvrir.
Je m'entretiens maintenant à l'émission à Librairie Cochot avec l'éditrice chez Druide, Anne-Marie Villeneuve. Question de savoir quelle est sa relation avec les libraires et les librairies indépendantes, parce qu'Anne-Marie porte deux chapeaux, celle d'éditrice, bien entendu, mais également celle de lectrice. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, n'est-ce pas, Anne-Marie?
Effectivement. Mais je vous avouerai que je me souviens plus trop c'est quoi être une lectrice sans être une éditrice. Ça fait plus de 25 ans que je suis éditrice. Donc, on dirait que quand j'entre dans une librairie, je suis jamais simplement lectrice. Peut-être ailleurs dans d'autres pays, mais je suis principalement, c'est les librairies du Québec que je visite surtout.
Ouais.
Donc, j'arrive toujours avec mon cerveau et mon cœur d'éditrice bien en marche.
Je t'avoue, Anne-Marie, que moi aussi, j'ai un peu cette impression-là lorsque je me présente dans une librairie et que j'ai en tête toujours, bon, comment orienter mon entrevue après la lecture de ce livre ou après avoir vu la quatrième de couverture. Bon, alors, revenons sur ton rapport avec les libraires et les librairies indépendantes. Je pense que c'est une relation qui va de soi, hein, éditeur et libraire.
Les libraires, c'est des alliés absolument essentiels. C'est aussi essentiel pour nous que des auteurs. Sans libraire, il n'y a rien qui se peut. Si les libraires aiment un livre, s'ils y croient et le mettent en valeur, mais ça va faire toute la différence dans la vie de l'ouvrage. C'est pour nous, c'est des professionnels du livre qui connaissent leur clientèle, qui connaissent ses goûts, ses besoins. Puis, j'irais même jusqu'à dire que moi, j'adore recevoir des commentaires des libraires, qu'ils soient bons ou mauvais là, par rapport à notre travail. Eux, ils sont sur la première ligne, sont conscients de choses qu'on ne réalise pas nécessairement dans notre position. Tu sais, moi, la plupart du temps, je suis devant mon ordinateur, dans mon bureau, en télétravail. Oui, je sens, mais moi, je bichonne les livres, je travaille avec les auteurs. Eux, ils sont sur la ligne de front. Et puis aussi, j'ajouterais que tu sais, la collaboration entre les libraires et les membres de notre équipe commerciale sur le terrain, ça, c'est archi important. On a des délégués qui vont sillonner la province, le Canada francophone, toutes les librairies et puis qui s'y rendent physiquement ou qui travaillent à distance. Puis quand la collaboration est bonne, c'est dynamique. Hein, les commandes vont être bien dosées, il y a un bon suivi sur les quantités en librairie, il y a des idées commerciales qui sont développées, qui viennent soit des libraires, soit de nous, il y a des ententes qui sont conclues. Donc ça, c'est vraiment, c'est l'idéal qu'on vit.
Et Anne-Marie, quand on parle de librairie, on parle également de rencontres d'auteurs, d'animation. Alors, pour une maison d'édition, de savoir que son auteur ou son autrice va être reçu dans une librairie, ça ajoute.
Bien sûr, parce que les auteurs, ce sont les meilleurs ambassadeurs de leur livre. Hein, c'est vraiment, par contre, il faut qu'il y ait des occasions de rencontre, puis ça, en librairie, ça peut être vraiment formidable. C'est pas toujours facile, parce que particulièrement les séances de dédicace, là, des fois, c'est dur sur l'ego de tout le monde. De l'auteur, du libraire, puis de l'éditeur, s'il n'y a pas de gens qui se présentent. Mais je dirais qu'il y a des formules là, que j'aime moi particulièrement. Les causeries, ça, c'est vraiment riche. Puis les lancements, ben c'est très le fun. Mais là, je vais me permettre de te révéler deux secrets. Les lancements. Bon, nous, tout d'abord, là, mes auteurs le savent, je commence toujours mon petit laïus au sujet des lancements de la même façon. Nous privilégions en tout temps les lancements en librairie. Puis ça, c'est vrai, là, je répète toujours. Mais ensuite, j'ai toujours aux auteurs aussi, mais là, par contre, si tu n'as pas d'amis, on n'en fera pas de lancement. Parce que je ne sais pas si dans le passé, il y a quelques décennies, les gens allaient sans connaître les auteurs dans les lancements de librairie, mais aujourd'hui, il faut vraiment que l'auteur arrive avec son groupe. Mm-hmm. On ne peut pas compter sur l'achalandage naturel. Mais quand on conjugue une librairie dynamique avec un auteur qui a un bon réseau, qu'on promeut assez bien l'événement, ça donne vraiment des belles soirées, là.
Et parlons un peu de la lectrice, même si, comme tu le mentionnais, c'est un peu difficile pour toi parce que tu as ton autre chapeau d'éditrice, mais replonge dans ton passé là, avant d'être éditrice.
En fait, je dirais les librairies ou les bibliothèques, pour moi, là, c'est comme des magasins de bonbons, ça me rend folle. Il faut même que je m'impose des règlements. Là, je ne peux plus acheter. Ou bien si j'achète un étranger, il faut que j'achète un Québécois. Mm-hmm. Ou bien là, non, il faut que je lise 3 livres de ma pile à la maison avant d'en acheter d'autres. Puis en plus, j'ai tous les autres manuscrits que je dois lire. Mais c'est fabuleux. Ce que je trouve difficile, par contre, puis ça, je suis pas dans les souliers des libraires, ça doit être vraiment atroce. C'est que l'espace n'est pas extensible. Mmh. Donc, quand des nouveautés entrent, il faut qu'il y ait d'autres titres qui sortent, puis réussir à avoir un espace, être bien positionné, c'est vraiment difficile. Mais je trouve que nos libraires là, travaillent bien, travaillent fort, puis on sent le... Tu sais, moi, j'adore les recommandations. Là. Par exemple, on trouve ça souvent dans les librairies. Là. Il y a la recommandation de René ou la recommandation de Sabrina. Puis j'aime aller voir ça. On veut... qui nous partagent leurs coups de cœur. Ça, c'est fabuleux.
Et évidemment, on souhaite que ces coups de cœur soient chez Druide, entre autres.
Oui, mais ça prend un équilibre. Non, mais c'est vrai. N'empêche que vrai. Tu remarqueras que c'est la même. Les best-sellers ne sont pas tous dans la même maison. C'est correct, ça. C'est bien. C'est comme une espèce de milieu, un environnement qui doit s'alimenter à différentes sources. Mais c'est certain que quand les libraires aiment particulièrement nos livres, on est content. Hein?
Ben oui. Merci beaucoup, Anne-Marie Villeneuve. Je rappelle que tu es éditrice chez Druide, de nous avoir parlé donc de ta perception du travail des libraires et des librairies indépendantes dans la chaîne du livre.
Ça m'a fait très plaisir. Merci, René.
Sur la librairie comme acte politique et culturel. André Mauroy, dans ses mémoires, glisse cette mise en garde malicieuse. Si les hommes comprenaient mieux les dangers que comporte l'emploi de certains mots, les dictionnaires aux devantures des librairies serait enveloppé d'une bande rouge, explosif, à manier avec soin. Le temps de lire quelques pages et votre animateur René Couchot sera de retour.
Un poète ne vit pas très longtemps. Il se croque la vie à pleines dents.
brûle toutes cartouches en même temps, se moquant des faux culs, des faux semblants. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète ne vit pas très longtemps. Si vous l'avez cru voir vieillissant, son fantôme, son spectre, assurément, ou sa dernière blague d'étudiant. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète se meurt de temps en temps. Ce n'est pas la cohue à l'enterrement. Juste quelques amis, quelques parents. On n'a pas alerté les présidents. Un poète se meurt de temps en temps. Un poète se meurt de temps en temps. On ne retrouve pas de testament. Encore moins d'héritiers, de prétendants. Seul est là la compagne des jours sans. Un poète se meurt de temps en temps. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Et ça n'est jamais très très bien pensant. À la moindre injustice, ça va gueulant. Contre les cons, le vice et les puissants. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Ça ne craint ni l'exil, ni les tourments. Ça écrit quand t'es grand le dénuement. Avec la dernière goutte de son sang. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Sa vie très très longtemps. Si j'ai dit le contraire apparemment, c'est que les mots, c'est bien changeant. S'ils sont dits au passé ou au présent. Un poète sa vie très très longtemps. Un poète sa vie très très longtemps. On ne compte le nombre de ses enfants. Il en est chaque hiver, chaque printemps, si la gloire du prophète vont chantant. Un poète sa vie très très longtemps.
Vous écoutez l'émission littéraire La Librairie Cochot.
Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Faut mieux aller en face chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les verres à porter les crédits. On s'est pointé à 20, on habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché, sous un verre à liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en bronze, c'est quand même plus chouette. On commande son livre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'air des trop petits Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On écrit sur les nappes, on porte des écharpes, on brise des pianos. On crie le paravoir, on payera plus tard en coupure de journaux. Au café littéraire, y a guère que la tonnière calme pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elles font lire 20 tomes au travers des ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye qui sait qu'on déduit sur le chèque le prix de l'autographe. chauffeurs à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le boudin cachené au briquet des étoiles. Au matin, pêle-mêle froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Mon café littéraire, suivez l'itinéraire, c'est ce dernier penche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. Où l'arbre sur le seuil sème comme un recueil ses feuilles de brouillon. Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau de nylon.
L'autrice Catherine Lafrance signe un quatrième roman qui met en vedette le journaliste Michel Duquesne. Dans L'été de tous les feux, l'action se déroule en juin 2023. Chibougamau est menacé par les flammes. Un jeune pompier perd la vie, écrasé par un arbre aux abords de la ville. Un journaliste disparaît dans le même secteur. S'est-il égaré en forêt? A-t-il été piégé par le feu? Michel Duquesne, qui ne croit pas au hasard, se rend sur place pour enquêter. Voici un extrait de l'entrevue accordée par Catherine Lafrance pour la librairie Cochot. Bonjour Catherine.
Bonjour René.
Alors Catherine, on se connaît, donc on va se tutoyer, on situe les gens dès le départ.
Certainement.
On reconnaît ici là, le caractère aventurier et fonceur du personnage de Michel Duquesne. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas peur du feu, notre Michel.
Non, parce qu'il est courageux, mais aussi et surtout, je dirais, parce qu'il est animé d'un besoin de découvrir exactement ce qui se passe, de voir où se cache la vérité, quelle est-elle et pourquoi il y a des gens qui tentent de cacher cette vérité. Alors il est motivé par ça et je pense même qu'il ne voit plus vraiment les dangers. C'est pas un anarchiste, là. mais il est téméraire, ça c'est évident.
Oui, téméraire au risque de sa vie, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Puis cette fois-ci, franchement, tu sais, c'est pas la première fois qu'il se met en danger. C'est arrivé, on l'a vu à quelques reprises, dans le premier roman de la série, il s'est retrouvé les mains attachées dans sa voiture sur un lac gelé, puis quelqu'un qui creusait des trous autour de lui pour le faire plonger dans les eaux glacées. Donc, mais ça, c'était, je te dirais, des choses qui lui arrivaient. Mm-hmm. Il s'était mis dans de telles situations que des gens ont voulu se venger ou le faire taire et ils s'en sont pris à lui. Cette fois-ci, là, c'est vraiment lui qui fonce. Ils foncent tête première parce qu'ils ont un objectif. Je ne vous dévoilerai pas tous les détails, bien sûr. Mais il a un objectif, découvrir qui se cache derrière les événements qui surviennent dans un secteur très précis, juste à l'extérieur de Chibougamau.
Bon, alors, revenons sur l'intrigue principale et surtout sur ces feux de forêt qui font rage et qui font en sorte que des habitants doivent se déplacer. Pourquoi avoir choisi en toile de fond ces incendies de forêt en 2023?
Bien, parce que je pense qu'ils ont marqué l'imaginaire.
Oui.
Puis c'est un sujet d'actualité. C'est malheureusement une réalité qu'on a connue en 2023, mais qui risque de revenir. Puis, tu sais, quand on y pense, là, c'est d'une tristesse infinie que nos forêts, comme ça, partent en fumée. On s'en soucie pas tant que ça parce qu'on a beaucoup, beaucoup de forêts, mais n'empêche, tu sais, c'est un espèce de problème double parce que, évidemment, c'est des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers d'hectares qui partent en fumée, ce qui, en soi, est une perte considérable pour la faune et la flore. Et c'est aussi que, en brûlant, le feu, en brûlant les forêts, dégage des CO2. Et donc, ça provoque encore plus ça augmente le taux de gaz à effet de serre et c'est susceptible de provoquer d'autres feux. Alors, c'est extrêmement dangereux. On s'en rend pas compte tant que ça. Il me semble qu'en 2023, là, c'était très évident. Là, je pense qu'il y a bien des gens qui s'inquiétaient quand on voyait les feux s'approcher des villes, être sur le point d'entrer dans les villes, juste jusqu'à Yellowknife. Yellowknife, là, c'est dans les territoires du Nord-Ouest. On est dans une région subarctique. C'est une région où il n'y a presque pas d'été. Et là, les feux ont ravagé le peu de forêt qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On est dans la taïga, c'est des petits arbres, mais les incendies ont grugé ces arbres-là. Ils sont arrivés aux portes de Yellowknife. Yellowknife a dû je pense, si ma mémoire est bonne, pour la première fois de son histoire, être évacuée. Alors, si une ville aussi nordique pense proche de d'être engloutie dans les flammes, ben, je pense que n'importe quelle autre ville est susceptible aussi de connaître des épisodes comme ça et subir des pertes importantes peut-être dans l'avenir. C'est sûr qu'on va tout faire pour se protéger de ça, mais ça reste un danger.
On peut rappeler aussi que souvent, les feux de forêt sont causés par l'homme. Et là, dans ton roman, tu fais d'ailleurs référence à l'incendie meurtrier de Chappé avec cet incendiaire.
Oui, parce que Michel Duquesne se rend à Chappé parce qu'il est sur la piste du journal, fameux journaliste disparu. Mm-hmm. Cette piste l'amène à Chappé. Et évidemment, à ce moment-là, en 2023, et ça, c'est arrivé pour vrai, là, il y a eu un gros incendie autour de Chappé. Les forêts y sont passées, la ville a été évacuée, et c'était un incendiaire. C'est quelqu'un qui a mis le feu délibérément pour démontrer que la forêt n'était pas si sèche que ça, et que donc, c'était pas vrai, la crise climatique n'était pas vraie. À preuve, ça, c'est ce qu'il disait, la preuve de mettre le feu, puis le feu ne va pas s'étendre. Ben, il a mis le feu et le feu s'est étendu à toutes les forêts environnantes de Chappé. Alors, ça, c'est ce qui est arrivé pour vrai. On connaît cet homme-là, il a été traduit en justice et tout. Bon, moi, je relate pas toute son histoire, mais je fais référence. Et évidemment, les journalistes qui vont sur place à Chappé ne peuvent pas s'empêcher de faire le lien avec ce qui s'est passé en 80, c'est-à-dire qu'en 80, accidentellement, quelqu'un avait mis le feu, et ça aussi, là, je parle de quelque chose qui est survenu pour vrai, donc quelqu'un avait mis le feu à une branche de sapin, c'était à une fête du jour de l'an, le 31 décembre, passé minuit, donc on était rendu le 1er janvier, et il y a eu, si ma mémoire est bonne, plus de 40 morts, et des blessés, bien sûr, parce que c'était dans une salle, les gens n'ont pas pu sortir assez rapidement, et ils ont été coincés par les flammes. Donc c'est sûr que je fais référence à tout ça parce qu'à Chappé, c'est très difficile d'aller à Chappé, de parler des feux, de se préoccuper de ça et de pas voir à quel point les gens sont encore marqués par cet événement-là, évidemment.
Bon, Michel Duquesne accepte donc de faire un reportage pour couvrir ces feux de forêt qui forcent l'évacuation d'une partie de la population à Chibougamau. Sur place, il est aidé par sa collègue Anne-Marie Bérubé. Il va découvrir, oui, en fait, que la mort du jeune pompier peut être liée à la disparition du journaliste disparu dans le même secteur. Il y a un fugitif également qui est recherché. Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Le défi, évidemment, pour un auteur ou une autrice, c'est de ne pas perdre le lecteur ou la lectrice, là.
Tout à fait. Alors, ce livre-là, évidemment, s'inscrit dans la série, c'est une suite. Mais je pense qu'il peut être lu tout seul, comme
absolument.
On dit. Il y a bien des gens qui me disent, c'est ça. Il y a bien des gens qui me disent, j'ai pas lu les premiers, mais celui-là, ça se tient. Il y a des références dans le texte, là, qui s'est expliqué quand je fais référence aux autres romans. Mais pour ceux qui veulent lire la série, alors on comprend que c'est la suite et que certains personnages de ce quatrième tome, outre le personnage principal, bien sûr, sont des personnages qui sont nés dans des tomes précédents. Donc, le lecteur, la lectrice de la série sera pas perdue puisqu'il va retrouver ces personnages-là. Et certains de ces personnages, évidemment, ne survivront pas au quatrième tome. D'autres survivront. Là, c'est le bonheur d'écrire une série. On joue comme ça avec les personnages. Il y a des nouveaux qui arrivent. Il y en a qui restent, qui sont récurrents. Il y en a qui partent. Il y en a qui meurent. Il y en a qui prennent leur retraite. Il y en a qui bon, etc. Donc ça, c'est généralement, je te dirais que les gens ne perdent pas le fil. Parce que j'ai beaucoup de lecteurs de la série qui m'écrivent, qui me disent « Ah, oh, ben là, ça répond tellement à le tome 4 répond aux questions que je me posais dans le tome 3, mais là, je me pose des questions dans le tome 4, alors est-ce que vous allez écrire un tome 5 pour répondre aux questions? » Alors oui, bien sûr, là, je peux déjà le dire, il y aura un tome 5, je suis en train de travailler là-dessus. Là. Donc ça, j'aime laisser le lecteur toujours un petit peu en suspens, mm-hmm, pour qu'il ait envie justement d'aller lire un prochain tome.
Ben voilà, alors Catherine Lafrance, ça a été un plaisir de jaser avec toi, donc de ta plus récente publication, en fait ton nouveau roman mettant en vedette Michel Duquesne, L'été de tous les feux. Et je rappelle que les romans précédents ont été primés. L'étonnante mémoire des glaces a été finaliste pour le prix Saint-Pacôme et Le dernier souffle est le plus lourd a aussi été finaliste du prix Saint-Pacôme et du Crime Art Letters of Canada. Et je rappelle évidemment que tes romans sont publiés aux éditions Druide. Merci beaucoup et puis on a déjà hâte au cinquième.
Merci René, ça a été un plaisir partagé. Le cinquième arrivera. Je vous mettrai au courant, bien sûr, tout le monde.
D'accord, merci.
Merci, bye-bye.
Écoutons Léonie Boudreau, copropriétaire de la librairie Les Deux Sœurs de Sherbrooke.
Comment on choisit les livres à mettre en avant en vitrine ou sur les tables? Bien sûr, on reçoit des livres à tous les jours en librairie. À certains moments, plus que d'autres, aux rentrées littéraires, par exemple, ou le 12 août, on a beaucoup de nouveautés qui sortent. Fait que c'est sûr que ce qu'on va mettre de l'avant, ça va être les nouveautés. Donc, on va vraiment essayer sur nos tables, on va mettre nos nouveautés pour essayer d'avoir un peu un roulement puis essayer de donner une vie au livre. Parce que des fois, tu sais, il y a un livre qui va sortir, puis deux semaines après, il y a plein d'autres livres qui sont sortis, puis on est déjà obligé de le rayonner. Puis en rayon, ben c'est sûr qu'il va avoir une moins bonne vie parce qu'on voit juste la tranche. Puis les gens, s'ils voient juste la tranche, sont bien moins amenés à fouiller puis à essayer de chercher que quand ils voient le livre, la couverture du livre sur la table. Donc, on essaie vraiment de donner comme une belle vie au livre en le laissant sur les tables le plus longtemps possible. Donc, voilà. Ensuite, ben pour ce qui est de plus les sections thématiques, ben on va souvent mettre de l'avant en fonction du moment de l'année. Par exemple, au mois de février, on fait toujours une section « Mois de l'histoire des Noirs ». Donc, on va mettre de l'avant des littératures écrites par des auteurs-autrices noirs et des essais aussi qui vont mettre de l'avant ces questions-là. Même chose pour le mois de juin, qui est un gros mois parce que c'est le mois des fiertés, puis c'est le mois en juin « Je lis autochtone ». On va faire toujours une section de littérature autochtone, puis une section de littérature queer, autant dans le jeunesse que dans l'adulte. Donc, ça va être beaucoup ça qui va un peu déterminer les sections qu'on met de l'avant. Puis ensuite, ben, on a toujours ici à la librairie une section coup de cœur qui est derrière la caisse. Donc, on met les coups de cœur des quatre libraires. On a chacun notre tablette. On a à peu près 5 livres qui rentrent. Et là, ben, c'est en rotation, nos derniers coups de cœur. Ben, là, ça arrive que c'est tellement nos coups de cœur qu'on les vend toutes. Fait que là, on les a plus. Fait qu'il faut mettre un autre coup de cœur. Fait que on fait notre rotation de coups de cœur comme ça, au mur. Donc, c'est vraiment au fil des lectures des libraires. Puis ça arrive que pendant un mois, les coups de cœur ne changent pas parce qu'on a lu plein de livres, mais ça n'a pas été des coups de cœur. Ça arrive. C'est plate, mais ça arrive. Donc, c'est ce qui détermine un peu ce qu'on va mettre de l'avant sur les tables dans la librairie.
Voici quelques nouvelles littéraires.
Record de fermeture de librairies en France. Les temps sont durs pour les librairies en France. Selon le Centre national du livre, pour la première fois, le nombre de fermetures de librairies a dépassé celui des ouvertures, 85 fermetures contre 83 ouvertures en 2025. Le secteur des librairies est en crise en France, fragilisé entre autres par la montée du commerce en ligne et la baisse du temps de lecture. Selon les données, les librairies situées en région parisienne résistent mieux que celles qui sont situées dans les villes petites et moyennes. Et on apprend que peu d'auteurs canadiens seront indemnisés par l'entreprise Anthropic. La vaste majorité des auteurs et autrices du Canada ne toucheront pas d'indemnisation de la part de l'entreprise Anthropic, qui s'est servie de leurs ouvrages pour entraîner son modèle d'intelligence artificielle Claude. L'entreprise américaine a utilisé 7 millions d'ouvrages sans permission. Un tribunal américain a validé un règlement de recours collectif intenté par des auteurs qui force Anthropic à verser 1,5 milliard à des auteurs et à des éditeurs. Or, ce règlement ne porte que sur 500 000 œuvres admissibles, si bien que les Michel Tremblay, Kim Thuy, Naomi Fontaine, Anaïs Barbeau-Lavalette et d'autres, dont les œuvres ont été utilisées à leur insu, n'auront pas droit à un dédommagement. Au Canada, en général, seules les œuvres populaires qui ont été rééditées aux États-Unis sont enregistrées. On peut noter « L'histoire de Pi » de Yann Martel et « La servante écarlate » de Margaret Atwood.
Il me souffle quelques mots, mais ça ne suffit pas. Je vois qu'il me provoque. Je le guette, il me couvre d'allusions. Clairement, il se répète, il peut tout exiger. Je suis prête, il sait me surprendre. Je me suis fait prendre à croire un poète. Je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre à croire un poète.
Coup d'œil sur le métier de libraire en Suisse. Dans le canton de Vaud, en orientation scolaire et professionnelle, on y enseigne le métier de libraire. Écoutons la vidéo promotionnelle.
Vous avez la passion des livres et aimez le contact avec la clientèle. Curiosité et ouverture d'esprit font partie de vos qualités. Vous êtes doté d'un bon sens commercial, êtes à l'aise dans les tâches administratives et aimez l'organisation? Alors découvrez le métier de libraire. Les libraires réceptionnent les arrivages, classent et rangent la marchandise sur les rayons, les présentoirs ou dans le dépôt, conseillent des ouvrages de tout genre, romans, livres d'art, manuels scolaires, dictionnaires, bandes dessinées ou encore ouvrages de cuisine, et répondent aux demandes des clients. Selon les tendances du moment, les libraires renouvellent les vitrines et les présentoirs, mettent en avant une sélection d'ouvrages ou organisent des dédicaces d'écrivains. Outre l'aspect littéraire important dans ce métier, le libraire doit avant tout être un bon gestionnaire. Il est en effet amené à gérer l'assortiment en s'occupant du suivi de l'état des stocks, des commandes des nouveautés ou des retours des invendus. Il faut savoir que c'est un métier physique et que les libraires travaillent la plupart du temps debout.
Depuis toute petite, j'aime lire et puis j'ai toujours aimé le contact avec les gens aussi. Et puis c'était un métier qui réunissait deux choses que j'appréciais beaucoup.
Voir les livres qui arrivent, les feuilleter, voir ce qu'il y a dedans. En fait, c'est la curiosité qui m'a poussée dans ce métier.
Disons que la librairie est un métier de l'actualité. Et ce que j'aime, c'est découvrir tout ce qui arrive, tous ces nouveaux sujets qui arrivent, tout ce qui se passe un peu dans le monde, ce qui devient un peu à la mode, ce qui se passe au niveau de la société. Et après, de voir les gens arriver et de voir ce qui les intéresse aussi.
Il y a vraiment beaucoup de contacts avec les clients, beaucoup d'échanges. Ce n'est pas juste un acte commercial dans le sens où on nous demande quelque chose et on le fournit aux clients. Il y a vraiment un dialogue, des échanges d'idées, des échanges d'intérêts. Et je trouve que c'est vraiment intéressant en fait. Et vraiment, ça rend le métier vraiment vivant.
Un enfant qui cherche juste une lecture pour se divertir, on peut avoir une maman qui essaie désespérément de faire lire son mari ou ses amis. C'est tout un rapport aux gens et à la lecture, à la découverte qui est intéressant dans ce métier. On espère tous découvrir la perle, le livre qui va changer notre ou la vie d'un client, de quelqu'un.
Bon, moi c'est un moyen un peu de m'évader, si vous voulez, un peu sortir du quotidien. Ça fait travailler mon imaginaire et c'est ce que j'apprécie le plus dans le livre en fait.
Effectivement, c'est une invitation au voyage. Pour moi, le livre, ça nous emmène dans d'autres mondes, c'est vraiment, ça nous change du quotidien. Et puis les personnages, ça nous emmène toujours ailleurs. Quoi.
Mon nom est Anthony Lacroix, je travaille à la librairie boutique Vénus à Rimouski. Dans la section sur les livres et les recommandations, quel livre avez-vous le plus vendu ces derniers mois et pourquoi, selon vous, a-t-il trouvé son public? C'est vraiment variable selon les saisons, mais moi j'aime beaucoup La Sainte Paix d'André Marois. C'est un livre qui est à la fois drôle et à la fois un thriller. C'est dans une village inventé, mais qui est proche d'Aristigouche. Donc, on peut croire que c'est dans la région. C'est tous des arguments qui sont assez gagnants au niveau de la public. Puis, il est assez facile à vendre. Hein? C'est l'histoire, en gros, de Jacqueline, qui est tout ce qu'elle veut, c'est la Sainte Paix. Malheureusement, elle a une voisine l'autre bord de la rue. La voisine a le Parkinson. Elle dit « Je vais déménager chez mon gars. » « Ah non, elle va vendre sa maison. Des jeunes vont acheter ça, ça va faire du bruit. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui pourrait empêcher ma voisine de vendre sa maison? » Si elle se suicide, m'aller suicider ma voisine. Hein, donc, la cassette est quand même très facile à faire, très accrocheuse. Généralement, j'en dis pas plus et les gens embarquent. Quel est le livre que vous avez le plus recommandé? Mais encore là, des polars, beaucoup pour l'été. En ce moment, je recommande beaucoup J.L. Blanchard. Donc, les enquêtes de Bonneau et la mouche. C'est vraiment quelque chose de très désopilant, de drôle, qui se prend pas trop au sérieux. Moi, c'est ce que j'aime dans les polars. C'est des polars québécois, donc dans un univers de police qu'on reconnaît, puis qui, à la fois, ne se prennent pas trop au sérieux. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Sinon, dans les dernières nouveautés, si on peut dire, Les grues volent vers le sud, qui est vraiment génial, qui parle de vieillesse, d'abandon, un peu de sentiment d'abandon par rapport à la vieillesse. Et comment on traite nos personnes âgées. Je dis « on » parce que même si c'est un livre suédois, On reconnaît le Québec là-dedans, dans notre traitement des personnes âgées. C'est génial comme livre. Quel est le livre qui vous a été le plus demandé? Ça aussi, ça change beaucoup. Ça dépend de qui va. Tout le monde en parle, de ce que Mariana Madza parle. La femme de ménage de Freda McFadden, ça a été un gros vendeur dans les dernières années. Notre joie demeure de Kev Lambert. Cœur du vestiaire, il y a deux Noëls, a été très populaire. Puis sinon, Coucoum et le petit prince, Coucoum de Michel Jean et le petit prince de Saint-Exupéry sont des bons vendeurs continuels à notre librairie.
J'ai besoin de m'exprimer comme t'as besoin de respirer. Les mots m'ont inspiré, ça m'a inspiré. J'ai une plume pour écrire et une oreille qui écoute. Chaque sourire m'inspire même quand le monde s'écroule. L'écriture ça soulage et ça sauve des vies. Il suffit de prendre sa plume et la laisser s'envoler. Se libérer de ses démons, c'est un instinct de survie. On écrit depuis des lunes et on se doit d'évoluer. Écrire c'est se mettre à nu, on se dévoile, on s'expose. C'est une question d'humilité, c'est nos tripes qui explosent. C'est pour ça qu'on écrit, c'est comme ça qu'on se délivre. Car l'émotion qu'on ressent ne se retrouve pas dans les livres. J'écoute d'autres rappeurs, d'autres slameurs, d'autres chanteurs. J'ai appris que les mots peuvent être très enchanteurs. Mais quand je dénonce l'injustice, j'ai un sacré caractère. Le message vient du cœur, ça traverse mes artères.
El hombre es mucho más que carne y hueso, el dinero es menos que papel, derramando tinta, llenando mi papel, a mi rol siendo un fiel, como el que juega en la sombra, derramando sangre y explotando bombas, corazón tan infiel, derramando tinta, explotando minas, y la suavidad del
pincel.
Daniel Pennac formule dans Comme un roman ce qui est peut-être sa phrase la plus forte et qui vaut pour chaque passage en librairie. Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même.
Eh bien voilà que se termine cet épisode de votre émission littéraire La librairie Cocho. Je m'appelle René Cocho et j'ai la grande joie d'animer cette émission qui vise à mettre en valeur le travail des libraires et des librairies indépendantes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre chapitre de La librairie Cocho.
Mes factures, ah, la vie est dure et tu n'es pas là. Tu es quelque part où je ne suis pas, ah oui ça c'est sûr. Mais si j'y étais, je crois que je serais pas dans mes chaussures. Ce serait celle d'un autre et je crois pas que ça me botte ce genre d'aventure. Je mets des lunettes noires, je peux pas laisser voir ma déconfiture. Si jamais je te croise, faut que je te toise en ayant l'air dur. Mais c'est des histoires, vu que je suis dans le noir sous les couvertures. Je risque pas de t'y voir, il est bien trop tard, mais j'ai la tête dure. Je passe et repasse toutes nos impasses, nos caricatures. Bien que ça fasse mal, c'est pas l'hôpital qui guérit ses blessures. C'est le temps qui passe, qui soigne et efface toutes les morsures. Les coups de poignard ne seront tôt ou tard que des égratignures. Thank you. écrit sur mon cœur, bonheur ou malheur, il n'y a rien qui dure. Mais je n'y crois pas, toi tu restes là, tu es ma nourriture. Tu es mon karma, mon Kama Sutra, ma littérature. Sans toi je suis mort, et même si je vis encore, ce sera une imposture.